de Noir sur Agora, deuxième partie.
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Voilà bien longtemps que vous n'étiez pas venu faire un petit tour dans notre émission. On est vraiment très contents de vous retrouver.
Comme ça, on finit bien l'année.
Voilà, exactement. Finir l'année et finir l'année avec du noir, avec un noir, avec tout est noir, quoi, dans ce roman dont vous allez nous parler, pardon.
Oui, tout est noir, même le titre, puisqu'il s'agit d'un roman qui s'appelle Dark Town. Donc c'est le même titre en français, ils ont gardé le titre original, d'un auteur américain qui s'appelle Thomas Mullen et qui est paru chez Rivage et traduit par Anne-Marie Carrière. Donc Dark Town, ça se déroule en 1948 dans la ville du sud des États-Unis d'Atlanta. Et c'est une des belles découvertes de l'automne et du début de l'hiver chez Rivage, avec un auteur qu'on ne connaissait pas ici en France. Donc on est en 1948 à Atlanta, et à Atlanta, à cette époque, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué depuis que l'esclavage a été aboli. La ségrégation règne, la police blanche a tous les droits, c'est-à-dire tous, absolument tous. Un flic peut tabasser, voler, tuer un noir en toute impunité. Et bah, il risque absolument rien. Mais en parallèle, il y a deux choses qui sont quand même en train de changer. Tout d'abord, il y a des Noirs qui sont revenus, qui ont fait la Première Guerre mondiale, qui ont été soldats, qui ont été jusqu'en Europe et qui ont même libéré les camps et qui sont revenus. Et puis il y a qui ne peuvent plus supporter ce qu'ils ont supporté jusque-là. Et puis il y a aussi une bourgeoisie noire. Et cette bourgeoisie noire, elle finit par avoir un certain poids, une pression du vote, même dans ces conditions. Et donc le maire de la ville accepte qu'il y ait 8 policiers noirs qui soient nommés. Alors attention, ils ne mélangent pas avec les policiers blancs. Ils n'ont le droit d'enquêter que dans les quartiers noirs de la ville, ils n'ont pas le droit d'arrêter les blancs, ils n'ont pas de voiture de patrouille, et bien entendu, ils sont haïs par les autres flics, et par la ville blanche, et même par une bonne partie de la ville noire qui voit en eux des traîtres. Donc on va suivre cette nouvelle formation de 8 flics, donc, qui viennent là en se disant qu'il est temps que quelqu'un prenne en charge la défense des quartiers noirs et protège la population. Et on va suivre en particulier 2 personnes dans ce groupe de 8. Un, c'est Box, c'est un fils de pasteur, donc membre de cette classe moyenne qui commence à monter. Et l'autre, Smith, lui, il est d'origine modeste. Ils vont faire équipe dans ce corps de police particulier. On prend le roman au moment où ils découvrent le cadavre d'une jeune métisse qui a été jetée sur un tas d'ordures. Donc ça, ils ne supportent pas de la voir jetée là comme une poubelle. Mais ils savent aussi que les ennuis vont commencer pour eux et que ça va être des très gros ennuis parce que peu de temps avant, quelques jours avant, cette jeune femme, ils l'ont vue, peu de temps avant sa mort, et ils l'ont vue se faire frapper par un blanc qui va se révéler être un ancien flic renvoyé pour corruption. Donc on se doute bien que l'enquête va être très très compliquée pour eux.
On imagine.
Voilà donc pour le contexte. Alors c'est pas un polar qui est révolutionnaire dans sa forme, hein. il est classique, mais il est solide, il est bien fait, l'intrigue tient la route, les personnages sont bien campés. Donc on a du, disons que sur la forme, on a du classique, du solide, quelque chose qui marche. Le début aussi, j'ai l'impression d'une série, ça ressemble fort au début d'une série, donc je pense qu'il y en a peut-être d'autres déjà. Il y en a peut-être d'autres déjà on espère qui seront traduits. Et puis là, ce qui est très intéressant, c'est de voir ce contexte historique dans cette partie, parce que moi j'avais pas lu de roman se passant à cette époque-là. Quand on parle de la condition noire aux États-Unis, on a plus l'habitude soit des romans pour les amateurs de polar de Chester Himes qui se passe à New York.
Oui, on pense à Ed Cercueil et Fossoyeur Jones.
Voilà, exactement. Ou alors, on a eu pas mal de romans policiers qui se sont passés plutôt dans les années des luttes pour les droits civiques, dans les années 60-70. Mm. Mais je ne connaissais pas, moi, ce contexte. Cette ville.
Après, effectivement, ça fait ancien. D'abord, il faut certainement beaucoup de documentation pour écrire des romans pareils.
Alors j'imagine, oui, que c'est documenté, j'imagine que c'est une réalité, ce petit groupe de 8 flics noirs. Je ne suis pas allé vérifier, j'avoue, sur Google ou autre, pour voir si ça existait. Et après, ça en fait une découverte, ce roman, une découverte qui est assez atterrante et assez effrayante, parce que c'est... On peut imaginer, bien sûr, ce que c'est la ségrégation, mais là, on le lit, on le vit avec les personnages, et alors on ressent la violence, l'agression, une peur permanente... un racisme en face revendiqué, mais ouvertement. On est à la limite du supportable par moment, même pour le lecteur qui est bien installé dans son fauteuil. Et encore, quand on quitte Atlanta pour un moment, il quitte Atlanta pour partir dans la campagne, c'est encore pire. C'est encore pire. Et donc, ça fait quand même, tout ce contexte, ça fait mesurer le chemin parcouru. Et puis, dans le cadre actuel, ça fait mesurer le risque de retour en arrière. Voilà, exactement. Donc, finalement, c'est une très bonne histoire policière. On s'ennuie pas un instant. Et puis, c'est peut-être un rappel historique pas du tout inutile en ce moment.
Oui, c'est ce qu'on appelle faire des petites piqûres de rappel.
Exactement. Alors là, c'est une grosse piqûre de rappel. C'est une bonne grosse piqûre de rappel, mais elle est vraiment utile. Elle est vraiment utile. Alors, c'est peut-être pas, c'est pas un livre qu'on lit pour se détendre, mais l'intrigue est suffisamment solide et bien menée. En plus, les personnages, on a envie de les suivre, quoi. On a envie de voir ce qui va leur arriver par la suite. Donc, j'espère que c'est une série et que Rivage aura la bonne idée de traduire les suivants s'ils existent déjà.
Bah, il faut que nos auditeurs découvrent et achète ce roman, comme ça, s'il y a de grosses ventes, eh bien, ça donnera d'autant plus envie à l'éditeur que d'acheter les manuscrits suivants et de les traduire, s'ils existent d'ailleurs. On sait pas, mais apparemment, d'après ce que vous dites, c'est bien construit pour faire une suite.
Ça a l'air construit pour faire une suite, et l'original est sorti en 2016, donc il faudrait voir s'il y a des jeux. Je crois que j'avais vérifié qu'il y en avait déjà deux ou trois quand même.
Voilà.
Donc voilà, il faut qu'il ait beaucoup de succès pour que la suite soit traduite aussi chez Rivage.
Ouais, ça serait bien. Est-ce que vous savez si c'est un auteur noir ou blanc ?
Non, il est blanc.
Il est blanc, oui.
Il est blanc, oui. J'ai vu sa photo, j'étais un peu curieux, je suis allé regarder, et il est blanc.
Donc, quelqu'un qui s'intéresse... quand même, je suis en train de chercher dans ma mémoire, effectivement, on a quand même lu et les uns et les autres beaucoup, beaucoup de romans noirs. C'est vrai que particulièrement sur cette période, il y a eu plus des romans qu'on n'a pas appelés des romans noirs, mais au moment de la Grande Dépression. Au moment, dans les années 20-29, il y a eu des romans sur la condition noire, sur la condition ouvrière et tout. Mais effectivement, juste après, il y en a pas beaucoup.
Oui, ou des romans de détectives, mais voilà, moins
de romans traduits, peut-être moins aussi de romans traduits. Hein. Il y a peut-être encore une mine à trouver encore, mais on ne sait pas. Jean-Marc, merci beaucoup. On vous retrouve sur votre blog. Pour plein d'autres livres à découvrir et des cadeaux de Noël peut-être à offrir.
Actu du Noir.
Voilà, Actu du Noir. Et puis j'espère qu'on se retrouvera un petit peu plus souvent l'année prochaine. Donc, d'une bonne fin d'année et encore une fois, plein de bons bouquins à nous parler dans un avenir très proche. Merci beaucoup, au revoir.
Et au revoir à vous, merci. Et puis bonne fête à tous.
Merci. Beaucoup. Un petit peu de musique, Jacques ?
Eh ben oui, ben on va rester dans le noir avec un extrait du récent album de Bruce Springsteen qui est enregistré à Broadway, un spectacle en fait où il parle, il raconte ses chansons et il les chante ensuite tout seul avec sa guitare et son harmonica.
C'est un album qui fait beaucoup de bruit.
Voilà, et là on va entendre une chanson qui s'appelle The Ghost of Tom Joad. Et Tom Joad, c'est un personnage, me semble-t-il...
Des raisins de la colère,
voilà. Et là, c'est son ombre, enfin son fantôme, parce qu'en fait, ça se passe quasiment de nos jours. Et c'est des gens qui ont du travail, des enfants, et qui sont obligés de dormir dans la voiture parce qu'ils peuvent pas s'en sortir autrement, enfin, entre autres. Voilà, certaines chansons de Bruce Springsteen, c'est des petits romans noirs en 4 minutes. Et on va écouter donc le Ghost of Tom Joad.
Walking along the railroad tracks, going someplace there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. I
hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive at night, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Jones. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpass, they got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city aqueduct. Well, the highway's alive at night. Everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Jones. Now Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Mom, you'll see me. Well, the highway's alive at night. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, with the ghost of old Tom Jones.
Et voilà, donc c'était Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Jones. Et je passe la parole à Corinne.
Voilà, on va finir l'année avec un récit qui, lui, a quelques années. Je m'explique. 55 de fièvre, c'est le titre du roman, a été écrit il y a bien longtemps par son auteur qui s'appelle Tito Topa, un nom que vous connaissez bien. C'est un roman qui a été édité à la Série Noire en 1983 et c'est même le premier roman édité de Tito Topa. Et il est ressorti il y a quelques semaines, exactement début octobre, à la manufacture de livres. Et c'est vraiment une très bonne idée de l'éditeur, car ce texte n'a pas pris une ride, au point que j'en croyais même l'écriture très récente, ne connaissant pas l'édition de 1983. On va y rencontrer des événements qu'il décrit au Maroc, Casablanca, année 1955, allusion au titre, colonisation et ses méfaits, qui vont être mis en parallèle avec bien des nouvelles qui nous arrivent aujourd'hui, en particulier la morgue des dentiers des tenants du pouvoir, vis-à-vis des plus humbles. Et les plus humbles, ici, à Casablanca, en 1955, c'est évidemment les Arabes. Il faut maintenant évoquer un petit peu l'histoire. Tout commence à la fin d'une soirée. Et un type, le pathétique, j'ai employé ce terme, moi, vraiment, c'est ce qui me convient pour lui, le pathétique Georges, raccompagne la splendide Jean, Alors gin, comme dit Tito Topin, c'est comme l'alcool, en fait, elle s'appelle Ginette. Mais évidemment, c'est un peu plus pep, ce gin. Oui, hein.
Ça sonne mieux.
Et en plus, elle ressemble à Jane Russell. Donc, imaginez, toi, Jane, se dit George. Lui, c'est loin d'être un Tarzan, malgré sa rutilante voiture et malgré tous les attributs qu'il y a autour, la jeune Jean refuse ses avances. Mais évidemment, que peut-il se passer? Des événements assez tragiques. Donc la libido de George qui va craquer lorsque Jean refuse donc ses avances. Mais quoi? Maintenant, un anti, un blanc, accusé de violence sur une blanche? Alors qu'il y a des Arabes, vraiment à la gueule d'Arabes, puis des jeunes en plus. On ne sait pas trop d'où ils sortent, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Qui pourraient être les violeurs? Et puis en même temps, ça servirait des desseins politiques d'hommes assoiffés de pouvoir. Pendant ce temps-là, la vie continue, cas 1 cas dans Casablanca. Mais on est en 55, donc Casablanca est chauffée à blanc, au moins 55 degrés, en cette année 55, qui annonce bientôt la décolonisation. Tito Topin, pour ce premier roman publié, a choisi une trame policière. Et il va continuer d'ailleurs, on sait, il a fait toute une carrière dans le roman noir. Et il a choisi donc cette trame policière pour nous décrire sa vision de la société marocaine, citadine tout du moins, puisqu'on reste vraiment ancré dans quelques quartiers de Casablanca. Il s'inscrit d'ailleurs d'emblée dans la veine du néo-noir, avec des gens tout à fait ordinaires, qui placés dans des circonstances particulières, et il y en avait en cette fin, en cette année 1955, donc vont basculer de l'autre côté de la force. Le récit va à 100 à l'heure, on va et on vient à toute allure entre tous les protagonistes, nombreux, qui vont nous décrypter un petit peu l'ambiance de cette époque. Il y a un rythme qui ne s'essouffle jamais, ça donne une force et une vie au roman à faire pâlir d'envie bien des thriller makers. Thriller makers, c'est les faiseurs de thriller, hein. Ce jeu de billard, ces rebonds entre les communautés, les lieux, les personnages, ça donne aussi un instantané d'une époque particulière. Et cette fiction, qui contourne l'histoire avec un grand H, est bien plus efficace qu'un document écrit racontant linéairement les faits de l'époque. C'est vraiment une vision très très pointue et très intéressante à lire. Noir est donc l'histoire, mais le ton est caustique. Tout est vu par l'œil malicieux, très très malicieux de l'auteur. Les dialogues pétillent. Pétillent comme celui-ci. Alors on est un flic et un apprenti flic. Le flic qui s'appelle Émile Gonzalez. « J'aime l'ordre », répondit Gonzalez sans hésiter. La réponse concise et la rapidité avec laquelle elle avait été balancée impressionnèrent favorablement l'inspecteur inquisiteur. « Vous aimez lire ?»« Oui, je lis énormément », répondit-il sans réfléchir au piège. « Peut-on savoir ce que vous aimez lire ?»« Ça dépend, des livres, des revues, Tintin et Milou. »« Et peut-on savoir quels sont les deux derniers livres que vous avez lus ?»« Crime et châtiment. » L'inspecteur avait pris depuis le début de l'entretien un grand cahier d'écolier et il notait d'un crayon hésitant dont il humectait la mine en la portant à sa langue les questions et les réponses. Le crayon était violet, comme la langue sortie en permanence pour faire office d'éponge humide. « Ah, crime et châtiment !» Un livre policier? Non, enfin, pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est un livre de Dostoïevski. Dostoïevski? Un russe? Alors, c'est un livre politique? Non, non, ce n'est pas politique, rectifia précipitamment Gonzalez. C'est un russe, mais un russe blanc. L'inspecteur s'esclaffa. Ah, tant mieux, tant mieux. Mais je préfère pas le noter dans votre dossier. J'écris Tintin et Milou, c'est préférable. Je fais ça parce que nous sommes presque cousins. Mais je vous donne un conseil familial. Ne lisez plus. La lecture, ce n'est pas bon pour les policiers. Ce sera le mot de la fin de notre émission. Ce sera le mot de la fin de notre émission de fin d'année. Au revoir, chacun dans son coin avec un bon bouquin.